CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et comme toujours, j'accueille Sylvain Bersinger, économiste et auteur, pour animer ce podcast avec moi. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors aujourd'hui, tu m'accompagnes dans un épisode qui traite d'une légende internationale. On y va.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Anita Roddick, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, nous sommes tous déjà passés devant une des boutiques de l'enseigne qu'elle a créée. Que l'on soit adepte de cosmétiques ou non, nous connaissons tous The Body Shop. L'originalité de l'enseigne est de baser ses produits sur un respect de l'environnement, mais aussi d'avoir une fondatrice excentrique. C'est en Angleterre, en 1942, Sylvain, que l'histoire d'Anita commence.
Oui, en effet, donc Anita Roddick, qui s'appelait de son nom de naissance Anita Perella, ou Pereia, puisque c'est une origine italienne, je ne sais pas exactement comment ça se prononçait. Donc elle est née en 1942 à Littlehampton, donc dans une petite ville dans le sud de l'Angleterre, donc d'une famille d'immigrés italiens. Sa mère était venue d'Italie, elle travaillait comme nounou en Angleterre. Donc elle a une famille très mouvementée, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'était une vision de la famille à l'italienne un peu traditionnelle, un mariage arrangé qui s'est mal passé, etc. Donc c'est une enfance, on ne va pas dire difficile, mais assez modeste, dans une situation familiale assez compliquée, des situations financières, on va dire, un peu tendues. Donc sa mère avait un restaurant, bar, restaurant, hôtel, donc à Littlehampton. Elle travaillait beaucoup, l'affaire tournait, mais modestement, disons. Et d'ailleurs, les enfants, sur leur temps libre, parfois aidaient les parents pour faire tourner la boutique.
Et c'est d'ailleurs dans ce restaurant qu'elle apprend une de ses premières leçons de commerce, Anita.
Oui, elle apprend notamment l'importance du décor, puisque quand le décor du magasin, enfin du café est changé, la clientèle change. L'ambiance change et en fait tout change. Et donc c'est un peu sa première leçon de l'importance de l'atmosphère qui se crée dans un lieu de vente.
Super, elle retient ça.
Ouais, elle retient ça et elle retiendra... Alors c'est une jeune fille très dégourdie qui apprend aussi une autre leçon de commerce à l'école, puisqu'elle avait de la famille aux États-Unis, d'autres immigrés italiens américains. Et donc elle avait des bandes dessinées, notamment américaines, de première main, et elle avait une très modeste affaire de revente de bandes dessinées dans la cour de l'école.
C'était la star un peu de la cour.
Oui, voilà, qu'elle avait les bandes dessinées avant tout le monde, et elle apprend à les revendre, à gérer la pénurie, à faire attendre la demande pour vendre plus cher, etc. Donc c'est une jeune fille très, très dégourdie qui a un peu le sens du commerce, en fait, qui est très débrouillarde, qui arrive à s'en sortir avec peu de choses, à monter des petites affaires comme ça.
Et qui se passionna pour les études.
Oui, alors elle vient d'une famille très modeste dans laquelle à peu près personne n'avait fait d'études. D'ailleurs, sa mère ne la poussait pas particulièrement quand elle lui répondait « tu vas t'abîmer les yeux », des choses comme ça. elle a pris goût aux études et c'est devenue une élève, une jeune fille assez, assez brillante et qui d'ailleurs s'est destinée un temps à l'enseignement.
Et justement, dans ces expériences d'enseignement qu'elle va avoir au début de sa carrière, on va commencer à voir un de ses premiers traits de personnage.
Oui, alors c'est quelqu'un qui a un caractère assez trempé, donc c'est pas une enseignante à l'ancienne, je dirais, avec le vêtement austère, les élèves au garde à vous presque, etc. Donc c'est vraiment un enseignement basé sur l'interactivité, les élèves doivent pas s'ennuyer, les élèves doivent interagir, les élèves doivent s'amuser en apprenant. Donc c'est vraiment un personnage original dans tous les aspects de sa vie. Et cette originalité, elle est aussi nourrie par de très nombreux voyages. C'est quelqu'un qui a le virus des voyages dès sa majorité à peu près. Elle part à Paris, elle part en Israël, elle part en Afrique, en Polynésie.
Elle enchaîne les voyages.
Oui, elle enchaîne les voyages. C'est vraiment une passionnée de voyage. Elle gardera cette passion toute sa vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est au cours de ses voyages, on en reparlera, qu'elle va acquérir beaucoup d'expériences, beaucoup d'idées qui lui serviront par la suite quand elle lancera The Body Shop.
Elle décide chaque fois de changer un peu de destination, d'aller découvrir des... elle a commencé notamment en Israël en étant dans un séjour, dans un kibbutz, et tout va s'enchaîner parce que chaque fois elle va décider de changer au gré des rencontres.
Oui, alors elle a vraiment la bougeotte, elle veut toujours découvrir de nouvelles choses, de nouvelles destinations. Et elle va aussi voyager donc avec son mari, donc Roddick, elle va prendre le nom Gordon Roddick, qu'elle a rencontré dans le bar de sa mère et qui est aussi, lui, un passionné de voyage. Et donc, tous les deux vont voyager encore plus pendant de nombreuses années, jusqu'à, au bout d'un moment, donc ils ont des enfants, et ils s'installent donc, dans le sud de l'Angleterre, et ils décident de créer une petite affaire, un peu comme sa mère d'ailleurs, un hôtel-restaurant dans le sud de l'Angleterre.
Ouais, ils décident de racheter un petit hôtel un peu miteux, avec le peu d'argent qu'ils avaient, et ils se rendent compte que ça ne suffit pas de l'hôtel, donc ils font un peu d'aubergiste, ils font un peu restaurateur, enfin, ils testent beaucoup de choses.
Oui, voilà. Donc l'hôtel, vu que c'est dans le sud de l'Angleterre, au bord de la mer, c'est une activité très saisonnière. Ça marche bien l'été quand il y a les touristes, et puis le reste de l'année, ça marche pas. Donc ils ouvrent un petit restaurant, ils ouvrent diverses activités. Et puis bon, ils se rendent compte qu'ils travaillent beaucoup pour arriver à tout juste boucler les fins de mois, et encore à peine. Et donc ils ont un peu dans l'idée de faire autre chose. Et notamment Gordon, donc le mari... Lui, il a dans le projet de traverser l'Amérique à cheval. Donc,
donc lui, le voyage, il est vraiment mordu.
Oui,
quoi.
Lui, c'est un passionné. Il veut partir du sud de l'Amérique du Sud, la pointe sud du Chili, et remonter jusqu'au nord du Canada, à cheval. Et donc, c'est un élément absolument déterminant pour la création de The Body Shop, puisque donc, quand il part à cheval, donc Anita Roddick, puisqu'elle a désormais pris le nom de Roddick.
Elle se retrouve seule.
Elle se retrouve seule avec cet hôtel à gérer, donc qui est beaucoup trop gros pour elle. Elle ne peut pas le gérer seule, donc il décide de revendre. Et elle se demande, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et c'est là que tout commence, en fait, puisque elle se dit, je pourrais lancer un petit magasin de cosmétiques.
Et pourquoi la cosmétique ? Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est juste parce qu'elle répondait à un de ses besoins à elle.
Oui, alors, elle a, dans son parcours, à peu près rien qui la rattache à la cosmétique, dans ses expériences, dans sa formation. Mais, en fait, elle était agacée. Elle était agacée des marques de cosmétiques dominantes, parce qu'elle trouvait qu'elle gaspillait beaucoup trop d'argent en publicité, elle faisait des tests sur les animaux, elle faisait des cosmétiques pas assez biologiques ou naturels à son goût, il y avait trop d'emballage, trop de gaspillage. Et en fait, son idée, c'est de faire des cosmétiques, mais de manière à peu près totalement opposée, au standard du secteur, en fait. Elle est agacée par ce qu'elle voit, et elle se dit, puisque je ne trouve pas les cosmétiques que moi j'aimerais acheter et consommer, je vais proposer moi-même, dans ma petite boutique, ce que j'aimerais pouvoir trouver en rayon ailleurs, et que je ne trouve pas, parce qu'elle se dit, je ne suis sûrement pas la seule, il y a sûrement beaucoup d'autres clients et consommateurs qui pensent comme moi. Et donc, c'est en fait de cet agacement que naît son idée de créer The Body Shop.
Donc elle a l'idée de base, mais pour réussir ça, il faut des fonds. Et donc, du coup, elle va se rendre à la banque.
Oui, alors, elle se rend à la banque une première fois avec ses deux enfants sous le bras, sans en ayant rien préparé. Et le banquier...
En jean, en t-shirt,
voilà,
normal,
un peu
basique.
Débraillé, etc. Le banquier la prend un petit peu de haut et lui prête pas les sous. Et elle y retourne avec son mari, donc avant son départ, à cheval, elle y retourne avec son mari, bien habillée, elle laisse parler son mari, etc.
Qui lui est en costume.
Voilà, elle bien habillée, etc. Et là, ça marche, et ils obtiennent un petit prêt pour lancer la boutique.
Donc là c'est fou, hein, parce qu'on est dans les années 60, 70,
oui,
et il y a encore tellement de préjugés pour prêter de l'argent comme ça.
Oui, elle a pas forcément une très haute opinion des banquiers et du monde de la finance, disons, d'une manière générale. Et on peut penser que cet épisode n'a pas contribué à rehausser le prestige des banquiers dans son estime.
Bon, là, les fonds, ça y est, elle va pouvoir ouvrir The Body Shop, mais c'est pas si simple parce qu'elle a aussi du mal à trouver des fournisseurs qui correspondent à ses besoins, du coup.
Oui, parce qu'elle veut faire des cosmétiques nouvelles, mais qu'elle veut en vendre. Mais pour les vendre, il faut avoir des fournisseurs, il faut trouver à les acheter. Et donc, à l'époque, aujourd'hui, tout le monde parle de cosmétiques naturels, bio, etc. Là, on est au milieu des années 70, en 76, hein, la naissance du premier magasin. C'est pas du tout quelque chose de courant. Et donc, en fait, pour la plupart de ses cosmétiques, au début, elle va en fait bricoler elle-même dans sa cuisine. Elle va faire des expériences. Donc, elle a beaucoup voyagé. Donc, elle a vu différentes... cosmétiques aux quatre coins du monde, souvent naturelles. Et donc elle
sait le type de plante qu'elle veut utiliser.
Voilà, elle a déjà des idées. Par exemple, l'aloe vera, aujourd'hui, c'est présent. Toutes les pubs de cosmétiques parlent d'aloe vera. À l'époque, c'était complètement inconnu. C'est une des...
On devait même la prendre pour une folle, presque.
Oui, sûrement un petit peu. Oui, comme ce banquier qui n'avait pas voulu lui prêter de l'argent la première fois. Et donc, elle crée un peu ses propres cosmétiques. Donc, The Body Shop, au début, la première boutique donc, qui ouvre à Brighton, donc toujours dans le sud de l'Angleterre en 76, c'est une toute petite boutique. Hein. Il y a peut-être 20 ou 30 produits dans la boutique. Donc il y a une gamme très, très restreinte. Mais c'est des produits qui ont une originalité. Parce que c'est vraiment des produits naturels qu'elle a créés elle-même.
Elle a choisi Brighton justement parce que c'était rempli d'étudiants à l'époque, plus que la petite ville dans laquelle elle vivait. Et il y avait aussi une population qui pouvait être intéressée par ce qu'elle allait proposer comme produit. Une population qu'on n'appelle pas encore Bobo, mais qui est les prémices de ça en fait.
Oui, Littlehampton, c'était vraiment une toute petite ville qu'elle jugeait trop petite pour avoir une clientèle suffisante. Brighton, c'est un peu plus grand, il y a des étudiants, il y a la plage qui attire les touristes, notamment l'été. Donc, elle s'est mise dans cette ville-là parce qu'elle pensait qu'il y avait une clientèle suffisamment vaste pour satisfaire sa boutique.
Tu l'as dit, elle va ouvrir avec très peu de produits, mais elle, ce qu'elle va décider de faire, c'est de faire du fonctionnel pas cher.
Oui, voilà. Donc, par exemple, ces premiers contenants donc de ces cosmétiques, c'est des flacons à urine des hôpitaux, parce que tout simplement, c'est pas cher. C'est le moins cher qu'elle a trouvé. Et elle développe aussi la consigne. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. Les gens achètent leurs cosmétiques, reviennent avec leur peau à urine, en fait, et se remplir à nouveau de cosmétiques.
Enfin, les peaux qu'ils ont achetées chez elles, hein, pas oui, les peaux qu'ils ont créées à l'hôpital.
Les peaux qu'ils ont achetées chez elles, mais qui sont à la base, pour certains en tout cas, des peaux achetées dans les hôpitaux pour faire des tests d'urine. Et petit à petit, elle va développer sa gamme, elle va trouver des fournisseurs locaux qui créent les cosmétiques qu'elle veut avec elle. Donc sa gamme très petite au début, elle va réussir à l'étoffer par elle-même et en développant un réseau de fournisseurs en Angleterre qui sont sur la même ligne, avec les mêmes idées qu'elle.
Et l'inventivité de Anita, c'est qu'au début, tu l'as dit, elle avait très peu de produits, mais elle a décidé de les présenter sous différents contenants, formes, pour donner l'impression d'avoir beaucoup de produits, en fait. Ça, c'était intelligent.
Oui, c'est vrai qu'elle avait une gamme très limitée, donc pour pas avoir une boutique qui a l'air un peu vide, le même produit, elle le présentait sous différents formats, un peu sous toutes les coutures. Donc, en fait, il y avait peut-être en tout quelques dizaines de produits, mais dans la boutique, ça avait une impression un peu plus fournie, parce que sinon, c'est important hein, dans les magasins qu'il y ait une impression un peu d'abondance pour que le client soit attiré par le produit. Sinon, ça fait une boutique un peu pauvrette et ça attire pas le client.
On n'a pas parlé du nom de The Body Shop, mais ça vient aussi d'un voyage.
Oui, ça vient d'un voyage aux États-Unis. Elle avait vu une boutique un peu, disons, bio, alternative, qui s'appelait The Body Shop. Elle a repris le nom. Alors, ce qui posera quelques problèmes 10-15 ans plus tard, quand The Body Shop ouvrira aux États-Unis, puisqu'il lui faudra racheter le nom, assez cher d'ailleurs, puisque c'est un nom qu'elle avait repris de manière un peu cavalière pour ouvrir sa boutique en Angleterre.
Il y avait déjà des body shops, enfin elle avait vu un body shop aux États-Unis.
Voilà, la marque existait déjà aux États-Unis, donc quand elle s'est ouverte sur le marché américain, il a fallu racheter le nom.
Et c'est rigolo parce que les soucis lors du lancement de The Body Shop, ça ne vient pas obligatoirement des concurrents dans les cosmétiques.
Oui, il y a une anecdote assez cocasse qu'il y a un croque-mort de la ville qui avait critiqué ce nom et qui lui avait mis des bâtons dans les roues parce que body en anglais ça veut dire le corps, donc le corps au sens là de cadavre. Et ce croque-mort avait fait des noises à Anita Roddick en disant c'est de la concurrence, il ne faut pas appeler votre magasin comme ça, etc.
Et elle avait utilisé la presse pour sortir de ce mauvais pas.
Oui, elle avait lancé, elle avait écrit un journal local en disant « mais je suis une pauvre mère qui lance son affaire et puis il y a des vilains gros commerçants implantés qui veulent me mettre des bâtons dans les roues ». Et la presse locale avait relayé ça et donc du coup le croque-mort avait vite remballé ses sarcasmes et The Body Shop avait pu se lancer comme prévu.
Alors le magasin décolle doucement et c'est un coup de chance qui le boostera.
Oui, les débuts sont assez modestes. Le coup de chance auquel tu fais référence, je pense, c'est le beau temps de cette année-là.
Donc, évidemment.
Le magasin ouvre en 76, au printemps 76, et donc il y a un très bel été sur Brighton en 76. Et donc les gens vont à la plage et ont envie d'avoir plus de cosmétiques. Et donc ça, c'est vraiment un petit coup de chance du destin pour le début.
Tout à l'heure, on parlait de son caractère en tant qu'enseignant. Et dès le début du lancement de sa boutique, elle impose aussi son caractère à l'intérieur de sa boutique. Pour elle, elle ne vend pas seulement ses produits.
Oui, c'est pas quelqu'un qui lance sa boutique en se disant je vais faire des fortunes. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter un nouveau produit. Donc, elle se voit autant comme une conseillère pour les clients que comme une vendeuse. Elle a envie de faire découvrir ses produits et donc elle peut passer des heures à discuter des produits avec un client, même si elle vend rien à l'arrivée. C'est vraiment une passion en fait. Elle a envie de développer ce type de produit-là. Si elle en vend, tant mieux. Il faut qu'elle en vende pour pas mettre la clé sous la porte. Mais c'est avant tout une passionnée du produit qu'elle est en train de lancer.
et quelques petites excentricités. Elle fait des expérimentations pour attirer le chaland.
Oui, c'est alors je ne sais pas si c'est une des premières, mais en tout cas, elle parfume le devant de sa boutique. Elle met de la musique. Elle peint sa devanture en vert foncé, qui est aujourd'hui la couleur de The Body Shop. C'est très pragmatique, c'est parce que en fait le vert foncé, la moisissure se voit moins sur le vert foncé. Donc vu que c'est un peu une vieille boutique en bois, elle s'est dit je vais peindre ça en vert foncé, comme ça si jamais il y a un peu de moisissure sur le bois, ça se verra pas trop. Donc ça c'est purement pragmatique, mais en fait c'est sûrement une bonne idée puisque le vert c'est plutôt associé à la pureté, à la nature. Donc pour quelqu'un qui voulait faire des cosmétiques bio, c'était aussi une bonne idée.
Une des particularités de son lancement en entrepreneur avec cette boutique, c'est qu'elle décide dès le début de payer comptant ses fournisseurs.
Oui, alors en fait, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde des affaires. Et donc, elle ne savait pas que la coutume, c'est de payer avec un retard, souvent assez long d'ailleurs.
De demander des délais,
etc. Donc, pour elle, c'était normal que dès qu'elle reçoit la marchandise, elle la paye. Et elle avait fait ça parce qu'elle croyait que c'était comme ça que ça se faisait, en fait. Selon elle, ça s'est révélé une très bonne idée parce que du coup, ses fournisseurs l'aimaient beaucoup et elle a pu, grâce à ça, nouer de très bonnes relations de confiance à long terme avec ses fournisseurs parce que tous les autres commerçants essaient de tirer sur la corde le plus possible et de payer en retard. Et elle, c'était tout l'inverse. Et donc du coup, elle était très bien vue de ses fournisseurs.
Elle réfléchit à se développer rapidement avant même que le premier magasin soit rentable. Mais pour ça, il faut encore de l'argent.
Oui, donc l'idée c'est de se développer en franchise, donc c'est-à-dire que d'autres franchisés arrivent et lancent eux-mêmes leur boutique, mais c'est vrai qu'il y a néanmoins besoin d'une petite mise de fonds. Et donc elle a vendu la moitié des parts de The Body Shop pour à l'époque 4000 livres. Bon, ça ferait un peu plus aujourd'hui, ça ferait peut-être, je sais pas, 10 000 euros à peu près. Donc on peut se dire c'est rien du tout quand on sait notamment que les parts de The Body Shop ont été, la valeur a été multipliée à peu près par 10 000 entre
la personne, c'est son ami qui lui a prêté l'argent au début. Il a multiplié sa mise par 10 000.
Oui, environ, oui. Oui, c'est le jackpot. Et donc, après, une fois que The Body Shop est devenu célèbre, il y a des gens qui ont dit « Anita, mais t'as été folle de vendre la moitié de tes parts pour si peu. » Et elle a répondu « Oui, mais sans ça, je me développais pas. J'avais besoin d'argent, la banque traînait des pieds. Et donc, c'était soit je vendais beaucoup pour une somme qui, à l'époque, paraissait faible. Mais il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, The Body Shop, c'est juste une petite boutique tenue par une excentrique avec une dizaine de produits à Brighton. Quoi. C'est pas grand-chose. »
Donc oui, en fait, elle a gagné 50% de quelque chose qu'elle n'aurait jamais gagné.
Voilà, on peut voir ça comme ça. Donc c'est sûr que l'investisseur à cette époque, pour lui, ça a été le jackpot. Oui.
Et l'affaire décolle enfin, et pour deux raisons, selon Anita.
Oui, alors l'affaire, au début, c'est un peu poussif, mais les choses se mettent en place. Assez vite, il y a des franchisés qui viennent spontanément vers elle pour ouvrir des nouveaux magasins, des nouvelles franchises. Au début, ça se fait de manière, je dirais, très informelle. Il y a quelqu'un qui arrive, j'aimerais faire une boutique, le courant passe, bon bah allons-y, tiens, ouvre une boutique, etc. Petit à petit, elle se rend bien compte que cette façon de fonctionner un peu informelle, ça ne fonctionne pas. Et donc, elle va un peu plus formaliser les choses. Et le succès commence à prendre, la sauce commence à prendre. Et donc, tu parlais de deux raisons. Donc, pour elle, c'est la passion. Il faut être passionné de son produit, c'est son cas. Il faut être passionné de ses cosmétiques. Il faut avoir une conviction. Elle a la conviction qu'elle peut, elle veut faire des cosmétiques différemment de ce qui se fait. Et la deuxième raison, selon elle, c'est la nécessité. C'est-à-dire qu'elle, c'était une mère seule, quoi, seule entre guillemets, parce que son mari était à l'autre bout du monde, donc seule avec ses deux enfants, et il fallait qu'elle gagne son beefsteak tous les jours. Et donc, elle était poussée par le besoin, elle n'avait pas trop d'autre choix que de réussir. Quoi. Donc, elle fait des horaires gigantesques, mais c'est cette nécessité qui, selon elle, l'a poussée à se dépasser et à réussir des choses qu'on aurait peut-être pu croire, vu de l'extérieur, très difficile, voire impossible à faire.
Et une dernière raison, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup aux besoins des gens aussi.
Oui, alors... Comme on l'a dit avant, son idée, c'est de prendre le contre-pied des habitudes de l'industrie cosmétique. Donc l'industrie cosmétique, souvent, la publicité, c'est de créer un besoin. C'est-à-dire, on a une publicité où on dit aux gens, bah, regardez, vous êtes trop gros, il faut une crème amincissante, vous avez les cheveux comme ci, il faut vous les nettoyer comme ça, etc. Elle, c'est pas son idée. Son idée, c'est de se demander quels sont les besoins des gens et d'essayer d'y répondre. Donc un exemple, c'est le marathon de Londres où les coureurs ont mal aux pieds, ont des ampoules, et elle se demande bah, qu'est-ce que je peux faire pour ça, et donc elle invente une crème qui marche très bien d'ailleurs et qui aide à la renommée de The Body Shop. Donc son idée, c'est vraiment de se demander de quoi les gens ont besoin, pas de se demander qu'est-ce que je peux créer comme besoin pour gagner de l'argent en y répondant, mais qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer la vie des gens.
En Amérique, le cheval de Gordon décède, donc Gordon, le mari, revient.
Et oui, donc il était parti pour traverser l'Amérique du sud au nord à cheval, et puis son cheval tombe dans un ravin, quoi. Lui manque mourir aussi, bon, c'est un peu compliqué, en Bolivie je crois, enfin bref. Et donc il revient en Angleterre, et il rejoint sa femme pour l'épauler à la tête de l'entreprise. Donc lui s'occupe plutôt du côté commercial, logistique. Et donc Anita, elle est plus sur l'aspect la conception des produits, le développement de la marque de l'entreprise, l'image de l'entreprise. Et c'est un duo qui fonctionne très bien. Hein. Donc après des débuts un peu poussifs, au bout de quelques années, The Body Shop s'étend à l'international, en Belgique, à Stockholm, à Athènes, etc. Des franchises commencent à s'ouvrir dans toute l'Europe. Et ça devient un très gros succès. D'autant plus remarquable que l'Angleterre à l'époque va économiquement très mal. Hein. On se rappelle qu'en 1976, l'Angleterre a dû réclamer une aide d'urgence du FMI pour boucler ses fins de mois, ce qui avait été vécu comme une humiliation. Et dans ce contexte économique très morose en Angleterre, bah, en fait, The Body Shop décolle très bien au tournant des années 70-80. Et en 84, l'entreprise entre en bourse. Et le titre The Body Shop sera appelé, surnommé le titre qui défie la gravité, parce qu'il vole de sommet en sommet.
D'ailleurs, une entrée en bourse qui aurait pu ne pas être voulue par Anita, qui se méfiait de la finance.
Oui, alors c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal de voir dans l'entreprise The Body Shop qui a une culture très, on va dire, entre guillemets, alternative, et qui pourtant entre en bourse. Il y a plusieurs raisons à ça. Une raison, c'est pour la famille Roddick de mettre un peu d'argent de côté, parce qu'en fait, ils se payaient très peu d'argent, très peu de salaire à la tête de l'entreprise.
Oui, la franchise fonctionnait bien, le réseau fonctionnait, mais eux, ils gagnaient pas tellement d'argent.
Non, eux dirigeaient l'entreprise, mais ils gagnaient pas forcément beaucoup d'argent, et donc en vendant des parts en bourse, ils peuvent gagner un peu d'argent et se mettre à l'abri du besoin. Et l'introduction en bourse donne une nouvelle image à l'entreprise, puisque dans le commerce, un des points importants, c'est d'avoir des bons emplacements. Et pour obtenir des bons emplacements, il faut avoir une bonne image de marque. Et donc le fait de s'introduire en bourse, ça fait que The Body Shop n'est plus vu juste comme un peu l'aventure de quelques hurluberlus, mais comme une entreprise vraiment responsable, enfin bien dans les codes, on va dire. Et donc ça facilite son développement. Donc c'est les deux principales raisons qui ont poussé à cette entrée en bourse.
Tu l'as dit tout à l'heure, il décide de se lancer aux États-Unis, donc il va y avoir le problème à cause du nom The Body Shop, mais ça va les pousser aussi à comprendre comment Anita veut que se comportent ses cadres.
Oui, alors quand l'entreprise attaque le marché américain, il y a un petit choc culturel, puisque The Body Shop, il y a une culture d'entreprise qui est très forte, c'est une structure très plate, où chacun a beaucoup d'autonomie, chacun peut donner son avis sur la hiérarchie, on fait confiance aux gens, et ensuite on les laisse faire, je dirais. Et donc elle arrive aux États-Unis, elle embauche une équipe de cadres new-yorkais qui, eux, ont des idées, disons, très, très standards dans le monde du management. Et au début, il y a un peu un clash entre la vision de la gestion par Anita et, disons, ce qu'on apprend dans les écoles de commerce américaines. Et donc le lancement américain, il y a un peu un couac au début, disons. Et après, elle se sépare de ses premiers managers. Elle en prend d'autres, souvent des femmes d'ailleurs, puisqu'elle dit qu'elle préfère travailler avec des femmes. Et elle prend d'autres managers qui sont plus en phase avec ses opinions et ses façons de faire, et là ça marche mieux. Mais on voit avec cet exemple-là la caractéristique de l'entreprise, qui est d'avoir une culture extrêmement forte. C'est pas juste une entreprise qui est là pour faire de l'argent, pour développer son activité, même si l'entreprise a besoin de faire du profit. C'est pas une entreprise bisounours, entre guillemets. Hein. S'il y a un salarié qui fait pas l'affaire, on le vire. Ils ont aucun scrupule. Anita Roddick a aucun scrupule à se débarrasser d'un collaborateur qui ne lui convient pas. Mais c'est une entreprise avec une culture très forte. Et donc, dans les choix de recrutement, dans les choix de développement, Anita doit faire attention à ça, à bien s'entourer de collaborateurs, à travailler avec des gens qui partagent sa vision des choses, sinon ça ne fonctionne pas.
Elle va même aller jusqu'à les former avec des écoles internes.
Oui, elle développe la formation interne. Et il y a une idée un peu de, de faire en sorte que les collaborateurs apprennent au fur et à mesure. Hein. C'est pas les gens arrivent avec leur formation, ils appliquent ce qu'ils ont appris à l'école, les points finales. Il y a vraiment une vision évolutive. Les managers apprennent avec les managers, entre guillemets, même si dans l'entreprise, cette différence s'estompe un peu. Il y a vraiment l'idée de toujours évoluer, de toujours former à la fois les personnes, entre guillemets, en bas de l'échelle et aussi les dirigeants.
Et bizarrement, contrairement aux idées originelles de la création de The Body Shop, en 2006, Body Shop est vendu à L'Oréal.
Oui, alors ça, c'est un peu paradoxal. Donc, Anita Roddick, à cette époque, était déjà malade. Elle est décédée en 2007. Un an avant sa mort, elle a vendu The Body Shop à L'Oréal, un peu un grand groupe qu'elle n'aimait pas forcément, puisqu'elle avait lancé toute son aventure en opposition à ce type de grande entreprise. Alors, elle a dit que c'était pour que The Body Shop soit un peu un cheval de Troie, c'est-à-dire que la culture de The Body Shop fasse changer la culture de L'Oréal. Bon, on peut peut-être douter que ça ait réussi. Mais après, L'Oréal n'a pas gardé très longtemps The Body Shop. L'entreprise a été revendue à des Brésiliens. Mais c'est vrai que ça a surpris de voir cette vente à L'Oréal qui est un petit peu contre nature, étant donné le parcours et l'idéologie et la... Pas l'idéologie, mais disons la culture d'entreprise très forte qu'avait développée The Body Shop.
Néanmoins, Anita nous a prouvé qu'on pouvait lancer une chaîne de magasins prospère seulement à la force du poignet et surtout qu'une réussite en bourse n'était pas obligatoirement une vente de son âme au diable. Merci Sylvain pour cette histoire.
Merci à toi Mickaël.
Je te donne évidemment rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait dans le prochain épisode d'Entrepreneurs de Légende que vous pouvez retrouver évidemment sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes de podcast audio. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.